Huitième jour avec Claire Bressolet.
Qui d'entre vous n'a pas lu Balzac? Qui d'entre vous n'a pas lu Hugo? Qui d'entre vous n'a pas lu Zola? Vous retournez sur les bancs du lycée. Qu'avez-vous retenu de Balzac et de Zola? Eh bien, la saga. Vous avez retenu la comédie humaine, pour Balzac, c'est-à-dire montrer comment des types se retrouvent, comment on peut faire le passage d'une société à l'autre à travers le père Goriot qui représente le père de l'ancien régime dans la province française et ses filles qui sont cyniques, intéressées, qui veulent de l'argent, sont les enfants du monde moderne. Entre-temps, la révolution industrielle est passée par là. Quant à Zola, avec la famille des Rougon-Macquart, il veut démontrer quoi? Qu'il est le nouveau biologiste, le Claude Bernard du roman, et qu'il va montrer qu'il y a deux influences. L'influence de la génétique qui vous détermine et l'influence du milieu qui vous conditionne. Donc c'est une démonstration, on est dans une grande famille, la même. Selon l'influence du milieu, ben Angélique, par exemple, une Rougon-Macquart, quand elle se retrouve en prise dans une famille de sacristains près d'une église et qu'elle va broder des ornements liturgiques, des chasubles, etc., et qu'elle va s'éprendre de Félicien, qui est un maître verrier, il y a des chances que sa génétique soit infléchie par influence du milieu. C'est ce qui se passe. Et on arrive à une sorte de mythologie de leur mariage à la fin, où elle tombe en extase mystique, elle est comme happée. Parce que ce n'est pas viable. On est dans une utopie. Mais cette tentation de la saga familiale, de la comédie humaine, du type qui parcourt le roman du XIXe siècle, est comme mise à l'écart dans Les Misérables de Victor Hugo. Hugo ne crée pas de saga. Ses romans sont une entité, plus une, plus une. Mais dans Les Misérables, qu'il porte pendant 30 ans, hein, c'est un projet qui naît très tôt dans sa tête, avec le titre « La misère », une sorte d'allégorie de la misère, devient Les Misérables quand il est en exil. Hein, souvenez-vous, coup d'État du 2 décembre 51, Louis-Napoléon Bonaparte devient Napoléon III, hein, il crée le Second Empire. Une semaine plus tard, Hugo est en exil. Il ne va pas accepter cette trahison. Alors, qu'est-ce que c'est que Les Misérables pour vous? Peut-être n'avez-vous jamais lu en entier l'intégralité du texte, vous ne la connaissez pas, mais vous connaissez tous cette musique. Cette musique, c'est celle du film de Robert Hossein avec Lino Ventura dans le rôle de Jean Valjean. Alors la question de notre moi, en quoi est-ce un huitième jour? Oui, en quoi Les Misérables sont-ils une sortie du déterminisme qu'on peut avoir dans le type, la recherche du type chez Balzac ou de l'influence du milieu et la génétique chez Zola? Tout simplement par le personnage de Monseigneur Myriel qui va accepter le forçat Jean Valjean marqué dans sa chair par un chiffre sur son bras, le chiffre de Bagnard, marqué socialement par le passeport jaune qu'il doit montrer à chaque fois. Donc vous connaissez 19 ans de bagne, une délaissée des récidives. Pourquoi 19 ans de bagne? Pour avoir volé un pain pour nourrir les 7 enfants de sa sœur. Donc vous voyez, disproportion de la peine par rapport à la faute. Et on pourrait dire qu'elle est généreuse, cette faute. Il va nourrir des enfants. Donc, disproportion, un homme blessé, que Hugo décrit comme un fauve. Toutes les portes se ferment quand il monte son passeport jaune. Autrement dit, on est dans le déterminisme. Telle cause, tel effet. La loi. Et Monseigneur Myriel ouvre les portes à ce bagnard qui arrive, parce qu'il a été chassé de tout, même de la niche d'un chien. Et puis c'est une vieille dame qui lui a dit, écoutez, allez frapper à cette porte-là. Il y va, vous connaissez l'histoire, Monseigneur Myriel sort ce qu'il a de plus beau, les couverts d'argent, du vin, une bonne soupe, il lui donne une alcôve bien chaude, bien chauffée. Hein. Et pendant la nuit, Jean Valjean, qui a été commotionné par l'alcool de Monseigneur Myriel, est repris par quoi ? Mais par l'habitude. Par le réflexe conditionné. Il a vu ses couverts d'argent. Ça pourrait lui rapporter gros quand même. Imaginez, la tentation est forte de tenter de les prendre. C'est l'instinct. Hugo décrit cet instinct comme celui d'un animal. Un instinct bestial. Et donc, Valjean prend ses couverts d'argent et saute par-dessus le petit mur du jardin de Monseigneur Myriel. Il est repris le lendemain matin par les gendarmes qui arrivent chez Monseigneur Myriel, lui disant « Mais voilà, on a trouvé, voyez, vous avez raison, on avait bien raison, vous avez tort d'accepter des gens si peu crédibles. » Et là, Monseigneur Myriel coupe la discussion. Il arrive avec les deux chandeliers d'argent. Le seul patrimoine qu'il avait gardé, parce que vous avez un grand chapitre à la Hugo qui nous montre que Monseigneur Myriel est un saint. Il a donné l'évêché pour en faire un hôpital, il va voir un ancien communard dans la forêt, enfin bref, c'est extraordinaire. Pas du tout quelqu'un qui est tapis rouge, les égards, je suis au sommet de la hiérarchie ecclésiastique, non, non, pas du tout. Donc Hugo a fait le portrait d'un évêque qui est un saint et qui transmet une sorte de sainteté. Il dit aux gendarmes, écoutez, vous faites erreur, j'ai donné ces couverts d'argent. Tenez mon ami, prenez, vous avez oublié ceci, et il lui donne les chandeliers auquel il tenait tant. Oh, vous imaginez la commotion de Jean Valjean. Son cœur est touché. Et le chapitre se termine avec un petit chuchotement de Monseigneur Myriel à l'oreille de Jean Valjean. « Mon ami, j'achète désormais votre âme. Elle appartient au bien. Elle appartient à Dieu. » Valjean est complètement commotionné et converti. Mais l'instinct est toujours là. Que va-t-il faire ? Et il part dans la montagne, le crépuscule arrive et il est assis près d'une souche d'arbres, méditant sur ce qui vient de lui arriver. Quand surgit un petit Gervais. C'est quoi un petit Gervais ? C'est un petit Suisse qui est suffisamment fin pour passer dans les cheminées et faire office de ramoneur. Il est tout content, il a gagné sa journée, il lance sa pièce. Oh, mauvais geste, elle sort de ses mains, elle roule à terre et Valjean, par réflexe, met le pied dessus. La bête surgit. Il y a un conflit intérieur. Petit Gervais hurle, « Rendez-moi ma pièce, voleur, voleur !» Valjean, va-t'en. Et voilà que quand Valjean sort de son instinct, de sa rêverie bestiale, Petit Gervais est parti bien loin. Et qu'a-t-il fait ? Vous devinez, il est allé dénoncer aux gendarmes de Digne-les-Bains, où habite Monseigneur Myriel, qui a eu un voleur dans la forêt. Autrement dit, Valjean va être catalogué comme récidiviste. Récidiviste égale bagne à perpétuité. S'il est repris, c'est le bagne à perpétuité. Que faire ? Tout Hugo, tous les misérables tiennent dans cette idée de conversion de l'homme, de sortie de la loi. Alors les étapes, je vous les passe. C'est simplement vous donner envie de les relire et nous ferons une émission avec lecture appropriée des grandes étapes. Je vais simplement vous donner quelques repères. Jean Valjean est son premier nom, son nom de forçat. Il va réussir à maquiller son nom de forçat, c'est-à-dire à éviter le passeport jaune par un tour de passe-passe à la Hugo. Donc Jean Valjean continue son chemin, sa route, il arrive à Boulogne-sur-Mer. Et là, au grand malheur, il y a un incendie. Et dans la maison, il y a deux enfants au deuxième étage et ils vont mourir dans les flammes. Personne ne peut monter, tout risque de s'écrouler. Quand surgit une sorte de Tarzan. Un Tarzan moderne qui, évidemment, monte par le lierre, prend les deux enfants, descend. Bref, Jean Valjean est passé par là. On ne lui demande pas de passeport. On estime qu'il a fait un acte héroïque, qu'il est exceptionnel. Et on a justement besoin d'un maire. Il devient maire. Et il va faire une usine de résine, Fantine va être employée, etc. Et là, il s'appelle Monsieur Madeleine. Ben, vous aurez compris, Marie-Madeleine, la repentie, la conversion, première conversion. Je vous laisse pour la suite en octobre. À bientôt.